Je vais vous inviter à prendre, à ouvrir vos Bibles dans Acte 2. On va lire chapitre 2, versets 37 à 39. Alors, je vais demander à Alice de nous lire Acte. Chapitre 2, versets 37 à 39.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen.
Amen. Amen. Merci pour la lecture. Je l'ai étudié. Que ferons-nous, frères? C'est une petite partie de la réponse que l'apôtre Paul a donnée à la foule. Mais c'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est quelque chose que j'ai voulu vous partager, j'ai voulu méditer avec vous. C'est pour cela que je l'ai choisi comme en tête aussi de ma prédication. Que ferons-nous, frères? Mais avant d'arriver là, je préfère commencer un peu en arrière. On est toujours dans la période pascale. Et je vous ai même avancé un peu plus vite parce que le texte, le passage ici, c'est au jour de la Pentecôte qui vont venir dans les prochains jours. Mais ce n'est pas grave, c'est toute la période qu'on peut partager des choses par rapport à la mort de Jésus et à tous les événements qui ont eu lieu pendant cette période. Alors, quand j'ai lu ça, ça m'a interpellé. J'ai dit, je veux partager ça avec le peuple de Dieu. Mais si je reviens un peu en arrière, peut-être faire un petit résumé qui va au moins nous donner un petit parcours avant d'arriver jusqu'au verset du jour. Vous vous souvenez que Jésus, déjà, quand il était en mission sur terre, il a choisi un groupe de personnes qui allaient l'aider dans sa mission ici sur terre, dans sa mission d'évangélisation. Et ils les ont donné une formation pendant 3 ans. Parce qu'ils savaient que c'est eux qui allaient rester quand ils allaient retourner au Père. Alors, leur a donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient quand même équipés, pour qu'un jour où il ne sera plus sur terre, qu'il faut qu'ils fassent un bon travail. Comme vous le savez, ils étaient confortables avec Jésus parce que tout ce qu'ils avaient besoin, ils demandaient à Jésus. Ils n'avaient vraiment aucun souci de la vie. Ils étaient même émerveillés parce qu'ils pensaient que c'est leur temps de sortir de, je dirais, de l'esclavage romain. Et vous savez, c'est l'histoire, mais vous savez que l'Empire romain dominer le monde à cette époque-là. Et les Juifs étaient sous cette domination, mais à contre-cœur. Alors, comme ils attendaient le Messie depuis longtemps, et quand ils lisaient dans les Écritures, ils savaient que quand il va venir, il va régner, il sera roi. Donc, tout ce qu'on attribuait à la Messie, ça leur donnait confiance que le jour où il viendra, ils vont de toutes les façons sortir, ils vont être ils vont occuper de bonnes places, ne seront plus sous la domination de qui que ce soit. Alors, il faut comprendre que quand Jésus était là, ils étaient bien. Alors, voilà, le jour arrive, comme nous l'avons vu les deux dernières semaines, il est mort. Et ça a choqué les disciples qui étaient avec lui, qui avaient mis leur confiance en lui, qui pensent que bien demain, il pouvait lui arriver, vu ce qu'il faisait avec eux, vu la puissance qu'ils avaient vu en eux. Ils ont été choqués, savaient qu'ils étaient dispersés. Ce qu'ils faisaient, disons, de la pêche, ils sont retournés dans leur métier où Jésus les avait pris. Donc, pour eux, l'histoire de Jésus était comme finie, la confiance était terminée. Mais après 3 jours, Jésus est ressuscité. Amen. C'est une bonne nouvelle. Et quand il est ressuscité, les premières personnes à qui il a rencontré, il leur dit, allez annoncer cette nouvelle aux autres. Je vous invite, il leur donna un point de rencontre. Comme ça, j'ai quelque chose à vous dire. Vous allez croire que c'est moi. Alors, vous savez comment le message est passé, parce que c'était, ils habitaient dans la cité, quand même dans la ville, c'était pas loin. Vous savez comment, même si c'est de rumeur, ça passe vite. Alors, le message est vite passé. Les disciples qui étaient dispersés sont revenus. Ils ont vécu encore un bon moment. Ils ont maintenant cru qu'est-ce que Jésus avait dit était vrai. Ils ont maintenant cru que c'était lui, le Messie qu'ils attendaient depuis bien longtemps. Mais malgré tout, il faut savoir qu'il y en avait d'autres personnes vraiment qui ignoraient toutes ces histoires, qui attendent même aujourd'hui le Messie, soit là. Mais ce petit groupe qui était avec Jésus, ils ont vécu encore de bons moments avant que Jésus remonte au ciel. Souvenez-vous, quand il était encore avec eux avant, il avait promis de leur envoyer le Saint-Esprit. Dans sa prière, il avait dit qu'il ne va pas aller nécessaire, qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit pour occuper la place de Jésus, pour faire ce que Jésus allait faire, ou bien ce qu'il faisait avec eux. Le moment arrive, je vais un peu vite. Le jour de la Pentecôte arrive, parce que Jésus est remonté, mais il a dit, allez à tel endroit, vous connaissez l'endroit, attendez-moi là-bas. Restez là jusqu'à ce que je vous donne ce que je vous ai promis. Ils se sont tous rendus là, ils sont restés là pendant un moment. La Pentecôte, vous savez que c'est après combien de jours? Pentecôte, 40 jours. Merci. C'est juste pour se rappeler. Alors, après 40 jours, ils sont là, à l'attente de ce que Jésus avait promis. Voilà le Saint-Esprit descend. À Jérusalem, il faut comprendre que il y avait une partie des Juifs qui étaient toujours là, mais il y avait une autre partie de Juifs qui vivaient dans la diaspora. Mais quand il y avait des grandes fêtes, ces gens-là qui étaient dans la diaspora à cause de la déportation, vous savez, ils revenaient à Jérusalem pour faire des sacrifices. Alors, la vie était vraiment remplie à ce moment-là, était remplie de gens d'un peu partout qui venaient juste pour dans les fêtes à Jérusalem. Le Saint-Esprit, quand il arrive, les Juifs qui étaient là, ils parlaient qu'à Améhé, quand Jésus était là, c'est la langue qui se disait, c'est araméen, c'était leur langue. Ce sont des gens qui venaient d'ailleurs, qui étaient grandis ailleurs, même s'ils étaient juifs, mais ils ne connaissaient pas la langue. C'est comme si je peux aller au Rwanda avec ma fille et mon fils. Il ne faut pas forcément comprendre ce que les gens disent là-bas, même s'ils sont rwandais, mais il ne faut pas comprendre parce qu'ils ne sont pas grandis là-bas. C'est pour vous dire que parmi les gens qui étaient là, qui étaient dans la ville, il y avait des juifs, mais qui ne comprenaient pas forcément la langue qu'on utilisait à cette époque-là. Dans le Saint-Esprit, l'événement du Saint-Esprit, vous savez comment ça s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu, il a permis que les gens qui étaient déjà à la tente du Saint-Esprit puissent parler dans d'autres langues. Il faut comprendre que ce sont des langues qui existaient déjà. Ce sont des langues qu'on parlait, pas forcément dans ce fouet, mais qui étaient utilisées dans le monde. Ce qui fait que quand ils étaient en train de parler ces langues à langue, les gens qui venaient de gauche à droite se demandaient comment ces pauvres personnes qui sont grandies ici dans le coin, qui n'ont jamais voyagé, comment ils arrivent à parler notre langue, parce qu'ils s'attendaient maintenant. Ils pouvaient comprendre ce que les autres dans la salle parlaient. Alors, ils ont commencé. Ça a été quelque chose qui est très étonnant. Ils se demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Comment, dans la salle comme ça, ils n'ont pas une information, même si on donne une information dans peu de temps comme ça, ils n'arrivaient pas quand même à s'exprimer dans les langues étrangères. Mais voilà que les gens parlent d'autres. Ça a été quelque chose quand même qui a bouleversé la cité. Les gens sont venus maintenant, ceux qui passaient à côté, à gauche, à droite, ils sont venus maintenant voir ce qui s'est passé dans la salle. Ce qui venait se passer dans la salle. Quand ils arrivent maintenant, je me rends maintenant à mon passage d'aujourd'hui. Nous sommes rendus maintenant dans Actes, chapitre 2. Je ne vais pas lire tout, mais normalement l'histoire commence au verset 14. Quand ils arrivent là, dans la foule, il y avait même des gens qui avaient contribué à la mort de Jésus, de près ou de loin, quand même, parce qu'ils surveillaient toujours les pans des disciples, des apôtres, parce qu'ils le suivaient toujours, ils voulaient voir la suite après que Jésus meurt, après qu'ils disent qu'il est ressuscité, parce que, je veux dire, les pharisiens, les scribes, les prêtres, ils voulaient même que ce message ne se propage pas. Alors, ils le suivaient de près pour voir leur mouvement, c'est ce qu'ils étaient là. Et ils ont commencé à dire, je dis, parmi la foule qui était là, qui assistait à l'événement, ils ont dit, non, laissez ces gens-là, ils sont ivres, ils sont zombies, voilà, ça fait longtemps qu'ils sont enfermés là-bas. Bon, on ne sait jamais, zombies, et maintenant, ils sont tombés ivres. Il y a eu quand même vous savez, à chaque fois, l'homme cherche la solution. Peu importe le problème, on essaie de trouver une réponse à donner à un problème. Comme il ne savait pas ce qui s'était passé, c'était un événement inexplicable qu'on ne pouvait pas quand même expliquer. On connaît Pierre, ses compagnons sont grandis là, ils sont des pauvres pêcheurs, les autres sont grandis dans le coin, on les connaît, mais maintenant ils commencent à parler dans des langues étrangères. C'était quelque chose que personne n'aurait pas expliqué, mais voilà, les gens commencent quand même à chercher des solutions. Ils ont dit, voilà, pourquoi? C'est quelque chose qu'on dit à... C'est pas vrai, mais on dit ça. Dans mon coin où je suis grandi, il y avait des gens quand ils avaient bu de l'alcool. Ce jour-là, même s'ils n'avaient pas fait beaucoup d'études, mais ils parlaient, s'ils connaissaient, disons, un petit français, le jour-là... C'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Ils pouvaient parler en français toute la journée comme ça, mais peu importe. Là. C'est vrai que ce n'était pas un bon français, mais c'était comme si c'est un catalyseur qui ouvre. Bon. Alors les gens disaient, c'est ça, maintenant, ils s'aventurent, ils peuvent parler quand même. Voilà. Mais... La mission commence. Voilà Pierre qui était maintenant rempli de cet esprit. Ici, quand j'arrive ici, ça m'étonne vraiment. Souvenez-vous que Pierre, malgré l'amour qu'il aimait Jésus, mais il l'a renié trois fois. Souvenez-vous qu'il a essayé quand même, il a fait un effort de suivre, de voir, parce que la Bible nous dit que quand même il mettait la distance, mais au moins il voulait voir là où on avait à amener Jésus, de loin, mais quand même il était là. Parce que même quand il a renié Jésus, il était dans la foule qui était déjà là. Quand même, on peut dire qu'il avait essayé, mais il l'a renié quand même. Il ne voulait même pas que les gens connaissent que faisait partie du groupe. Même là, regarde la puissance de cet esprit. Parce que Jésus le savait. Parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos forces et nos faiblesses. Même si Pierre disait, ah, je t'aime vraiment, même je t'aime pour bon. Tout ce qu'il pouvait dire, Jésus, il savait parce qu'il connaissait Pierre. Il savait que c'est l'amour même humain, si je pourrais dire ainsi. Mais il les a dit, vous serez les témoins. Saint-Esprit, je paraphrase, Saint-Esprit va descendre. Vous serez les témoins. Vous allez pouvoir maintenant me témoigner de Jérusalem, de Judée, un peu partout dans le monde jusqu'à la fin du monde. Vous savez que c'est vraiment la puissance de Saint-Esprit qui a le pouvoir de le booster, je veux dire, pour tenir debout et pour témoigner. Bien aimé, si ce n'est pas la puissance de Saint-Esprit, il y a des endroits où on manque des mots, on peut manquer des mots. N'a rien à dire. Mais quand c'est la puissance, quand la puissance de l'esprit est là, est à nous, parce que celui qui parle est à nous. Parce que regarde, c'est pas Pierre. J'ai analysé, mais j'ai vu que c'était pas Pierre. Parce que Pierre, d'habitude, il n'avait pas l'habitude de tenir un discours. Peut-être qu'il pouvait organiser le péché au bord de l'eau, juste dire un petit mot, mais pas un discours. Parce que Pierre n'était pas arrière-record. Mais regarde, avec toute la foule, tout le monde est confondu, les autorités, les gens avec des grosses études, tout le monde était là. Voilà Pierre. Si maintenant, quelques semaines avant, qui sont cachés derrière dans la foule pour ne pas que les gens reconnaissent, voilà qui s'est mis debout sur ses deux pieds, voilà qui commence maintenant à témoigner. Donc, va, les gens qui ont tué Jésus, ils savaient, ils le savaient, qu'ils pouvaient même le faire pour lui aussi, parce qu'il était rempli de cet esprit. Il était capable de se dépasser. Alléluia. Il était capable maintenant de dire ce qu'il ne pouvait pas dire avant. Il a sorti un autre discours. Si vous voulez, vous allez lire 14, à partir du verset 14 jusqu'à 36. C'est tout un discours que Pierre a dit devant la foule qui était là. Premièrement, il a voulu dans son discours, il a voulu clarifier la situation. Il a dit non, tout ce que vous pensez, tout ce que vous pouvez dire, non, ce n'est pas vrai. Il commence maintenant à sortir les écritures. Il faut savoir que la Bible, comme ça, n'était pas là. Il n'y avait pas la Bible à cette époque-là. Mais les gens avaient leur façon. Non seulement que la mémorisation était avancée encore, mais il y avait ce qu'on appelle les manuscrits. Ils avaient quand même des écritures. Ils utilisaient pas des papiers, mais ce qu'ils appelaient les parchemins, les ponts des animaux pour écrire. Mais il y avait quand même des écrits. Et l'apôtre Pierre a commencé à sortir la prophétie. Tout ce qui a été dit sur le prophète, par le prophète Joël, vous savez, le prophète Joël avait déjà prophétisé ça, la venue du Saint-Esprit. On peut lire ça dans Joël 2, verset 28, si quelqu'un est là, parce que ça fait un moment que je parle ça. Est-ce que quelqu'un peut lire à Joël, chapitre 2, verset 28? 28, il a lu à Fassou, si tu peux lire, tu peux approcher le micro là-bas, comme ça déjà, sur Zoom. Bon. Joël, le prophète Joël, verset 28, à ce chapitre 2, 28, jusqu'à 30. Oui. Joël, oui. Le prophète Joël. Oui. Bon, dans certaines versions, oui. Je sais ce que tu iras. Merci. Oui, je sais, dans certaines versions, il y en a même ce qui est peut-être chapitre 3, verset 1, quelque chose comme ça.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de feu.
Amen. Amen. Alors, voilà, Pierre qui commence à rappeler la foule ce qui a été écrit. Par le prophète, il y avait quand même à peu près 3 siècles. Joël, du temps du prophète Joël, ça faisait un bon 300 siècles. Parce que Joël, c'est un prophète qui a prophétisé avant Jésus-Christ. Maintenant, Pierre, c'était dans le premier siècle de notre ère, après Jésus-Christ. Ça faisait quand même un peu longtemps. Parce que si je dis 300 ans, 400 ans, c'est beaucoup. Mais la majorité n'était pas là. Mais il commence à lire tout ce qui a été écrit. Tout ce que vous êtes en train de voir, tel prophète les avait dit. Voilà, c'est la réalisation de la prophétie qui est en train de se réaliser. Ce n'est pas que nous sommes tombés ivres, ce n'est pas que nous avons bu, mais c'est la prophétie qui se réalise. Alors, c'est un long discours, mais là où je vais me rendre, au point du jour, c'est là où ma Maryse a lu ce matin. Pierre raconte toute l'histoire, mais si vous lisez le texte, vous allez voir que n'hésitez pas à pointer du doigt les scribes, les sacrificateurs, tout ce qui ont, je dirais, la part dans la mort de Jésus. N'hésitez pas à répondre. Vous avez tué. Vous l'avez tué. Celui que le Seigneur avait envoyé, le Messie, vous l'avez tué. Enfin, il ne pouvait pas, parce qu'il était rempli de cet esprit. Il pouvait parler à sa peur. La Bible nous dit que la foule a été frappée par le message. À cet instant même, il n'y avait plus personne. Vous comprenez que 3000, ils estiment 3000 personnes. J'imagine que c'était calme. Il n'y avait pas de micro parce que ce n'était pas quelque chose qui était organisé. Mais il fallait que Pierre parle et que tout le monde, toute la foule, puisse comprendre. La Bible nous dit que les gens sont bouleversés par le message. Ils étaient touchés. Maintenant, voilà la question. Voilà ce qui est sorti dans le discours, dans le témoignage que l'apôtre Pierre venait de donner. La foule qui était bouleversée de ce qu'ils avaient fait, qui se culpabilisait de la mort de Jésus, mais qui ne savait pas quoi faire. Voilà maintenant la question qu'ils ont posée. À l'apôtre Pierre, qui n'était pas normalement une personne de référence avant, mais parce qu'il était devenu quelqu'un, parce qu'il était rempli de cet esprit. Maintenant, les gens, la foule de la Bible nous dit, ils étaient les disciples dans la salle, on nous dit qu'ils étaient à peu près 120, peut-être il y avait 120 personnes. Qui connaissait Jésus, qui avait quand même suivi Jésus. Mais la Bible nous dit que toute la foule a commencé à demander à Pierre et à d'autres disciples. Frère, maintenant, c'est des négociations. Ce n'était pas comme avant. Ce n'était pas comme avant. Avant, les temps passés, vous savez, comment il agissait face aux apôtres, face aux disciples, face aux gens qui avaient accepté Jésus. Frère, pour homme ou fille, vous savez, quand vous êtes, quand vous avez même des disputes avec quelqu'un, souvent chacun veut se défendre, veut défendre sa position, ce qu'il a fait. Mais quand quelqu'un commence à dire, mais mon frère, comment alors on va arranger la situation alors, donc tu es à la bonne position maintenant. Tiens et moi, la parole te revient. Maintenant, la foule, il s'agenouille. Ce n'est pas écrit, mais il dit, Pierre, d'après tout ce que nous comprenons, nous avons tué le Messie. Parce que nous comprenons et nous acceptons la faute. Mais que ferons-nous? Apôtre Paul, Pierre, pardon, j'ai dit que c'est le Saint-Esprit qui agissait parce que c'était Pierre. Si c'était le vrai Pierre là, il allait dire maintenant, d'habitude, il y avait des. Dans la culture juive, il y avait quand même des punitions sérieuses. Donc, vous savez que quand quelqu'un péchait dans l'Ancien Testament, vous savez comment il souffrait. Quand même, c'était pas quelque chose facile pour accéder, je dirais, au pardon. C'était provisoire, mais aussi c'était difficile. Alors, si c'était Pierre, il aurait dit, ben, voilà, si vous acceptez la faute, alors ce que vous avez fait, peut-être il aurait dit, bon, si c'était Pierre, il aurait quand même dit comme tous les autres. Peut-être que chacun va donner, je ne sais pas combien la monnaie qu'ils utilisaient, chacun va payer autant de montants, comme ça, on va prier pour vous. C'est ça. Malheureusement, je suis dit dans mes églises, je vais y revenir, mais je dis là où c'est devenu quelque chose qui est, je dirais, qui me manque, mais même là où les gens essayent de demander que ferons-nous, mais les gens ils disent, ah, vous allez les voir, alors il y a un panier là-bas, amène tel montant, amène tel offrande. Donne ça, je veux prier pour vous et vous recevez le pardon. C'est ça, résumé, c'est comme ça que le résumé fonctionne. Mais l'apôtre Paul dit, repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Je sais que c'est un mot dire. C'est un mot dire, surtout dans les derniers moments comme ça. C'est des mots qu'on n'aime pas entendre. Mais Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Afin que vos péchés soient pardonnés. Il n'y avait pas question des offrandes, il n'y avait pas question des sacrifices. Non. Repentez-vous. C'est le premier point, c'est le point de départ. Et je dis souvent que l'Église, du dernier moment à perdre. Aujourd'hui, les gens, on appelle les gens, on invite les gens à venir à l'église, mais quand ils arrivent, on ne leur dit pas la prochaine étape, la vraie prochaine étape, parce que sans repentance, il n'y a pas la condition. Sans la condition, ça c'est le problème. Il n'y a pas le sens. Désolé, c'est comme ça. Ce qui fait que dans beaucoup de nos églises, nous avons beaucoup de religieux et beaucoup de personnes moraux, sages, vous comprenez ce que je veux dire, mais pas de personnes converties. Parce que pour la conversion, l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous à cet instant. Avant de commencer d'aller plus loin, il n'a pas dit, ah, venez, venez, il y a la colère, on a organisé le groupe de louanges, venez quand même entrer, participer, oui, on y va ensemble, non. Repentez-vous. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est difficile, mais c'est le point important. C'est le point très important, c'est le point de départ dans le cheminement avec Jésus. Dans le cheminement avec Jésus. Se repentir. Acceptez-vous. J'ai analysé la demande de la foule là. Si vous regardez, il y avait quand même que vous pouvez sortir quelques éléments dans la demande que la foule a donné à Pierre. D'abord, ils avaient compris le message. Ils avaient écouté attentivement. Et après avoir écouté, ils avaient aussi accepté la foule dans l'acceptation aussi. La humilité aussi qui était là-dedans. Parce qu'ils ont accepté. Ils auraient dit, par exemple, non, comme on dit souvent, mais ce n'est pas nous. C'est vrai que ce n'était pas tout le monde qui avait quand même fait partie du groupe. Ils auraient dit, mais moi, Pierre, tu sais, moi d'ailleurs, je n'habite pas ici. J'ai entendu qu'on a tué seulement Jésus, mais je n'étais pas là vraiment. Moi, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas comme ça. Tout le monde était touché par le message. Ils ont compris, ils ont accepté la foi tout ensemble. Et ils avaient l'esprit d'humilité aussi. Parce que quand tu dis, que ferais-je? C'est comme si, de mon côté, j'ai rien. Je me remets à tout. C'est vrai que vous avez là la peur de subir des conséquences de la mort de Jésus. Alors, dans le dernier moment, je vais finir par ici. Dans la dernière période dans laquelle nous sommes, à part ce que j'ai dit, que des fois les gens viennent, mais on ne leur dit pas clairement ce qu'il faut faire, ce qui fait qu'on marche, mais les gens ne sont pas convertis. En plus de ça, c'est comme si aujourd'hui les gens, on est devenus insensibles à la parole. Vous avez compris que j'ai compris le message. C'était frappé, c'est ce qu'on a lu. Mais désolé de le dire aujourd'hui. Le message passe parce que ça fait des années que j'attends la parole. Je me retrouve aujourd'hui. Malgré de nombreuses années, on écoute, on n'arrive pas à se poser la question, que ferais-je? J'imagine que quand on se pose cette question, Dieu est prêt, Jésus-Christ est prêt de nous dire la prochaine étape. C'est vrai, on sait, c'est de se repentir, mais les prochaines étapes, quand on a montré qu'on a envie, on a compris le message. Maintenant, je sais pas. Saint-Esprit, avec les pasteurs, avec les frères et sœurs, sont là pour nous écouter. Mais des fois, on écoute, on arrive, on écoute la parole, et à midi, c'est fini, d'ailleurs, le midi, c'est fini, on sort de la rade. Finalement, le défi, c'est que nos églises vont devenir comme des salles de spectacle, ou bien des salles de cinéma, je dis. Parce que dans la salle de cinéma, je pense que la seule chose qu'on peut demander, c'est un ticket. Si tu vois si tu as payé un ticket, je n'ai jamais été là désolé. Ce n'est pas un péché. Je pense qu'un jour il y aura. Mais je pense que dans la salle de cinéma, on rentre, on te demande si tu as payé, tu prends ta place et tu écoutes. Après, tu n'as aucun compte à rendre. Alors, ce que j'ai compris dans ce message et que j'aimerais vous partager, c'est qu'à chaque fois que nous écoutons la parole, il faut se poser la question comme vous comprenez la parole, mais que ferais-je? Même quand tu lis la parole chez toi, tu me dis que la parole, tu dois te demander que ferais-je face à ce que je viens de écouter, face à la vie que je viens de faire. Mais comme je dis, je n'accuse pas quelqu'un, je n'accuse pas quelqu'un. Parce que si je vous accuse, je m'accuse aussi. Ce qui nous arrive, c'est que parce qu'on est dans la période, je dirais, qui va vite. On n'a pas ce temps de se poser des questions, de demander de l'aide. Donc, on sait qu'on a compris le message dimanche. On sait que dimanche, je serai avec vous. On sait que la prochaine fois, je serai. Parce que le problème, si les gens ne commencent pas à un bon point. C'est comme si on bâtirait une maison sans fondation solide. C'est vrai, on va à l'extérieur, on va avoir des églises remplies de monde. Mais remplies de monde, mais non convaincues. Bien-aimé, d'après ce que nous avons dit, je voudrais insister surtout sur la demande de la foi. Que ferons-nous, frère? Mais je dis, moi, que ferons-nous après le message? Et après, je voudrais insister aussi à la réponse que Dieu a donnée. Je dis, la réponse qui nous manque souvent et de fou. Des fois, la personne peut même venir avec envie de se convertir, mais il manque l'encadrement. On ne lui dit pas ce qu'il faut faire. Des fois, c'est la faute aux dirigeants, c'est la faute aux frères et sœurs qui devaient quand même donner la direction, mais des fois, c'est aux gens aussi. Tu ne demandes pas de l'aide, comme la foule a fait. Que dois-je faire? Que ferons-nous pour guérir? La réponse a été donnée. Je vous remercie. Je m'excuse si le message n'a pas été peut-être. Ça a été dur, je sais. Mais je m'excuse. Des fois, il faut écouter aussi. Je m'imagine que dans la période de Pierre, il y avait aussi, les gens n'étaient pas toujours à l'aise d'écouter de mots que Pierre ou Jean-Baptiste. Vous connaissez des grands évangélistes ou grands prédicateurs qui ont existé, mais des fois je sais que des mots peuvent être difficiles à digérer, mais je m'excuse si quelque chose vous apprécie, ce n'est pas mon intention. J'essaie de rire et je prie à chaque fois. Parce que quand je suis ici, je ne veux pas l'intention de précipiter ce sommet, de dire, de partager avec toi comme je le comprends, même si je sais que c'est au bas pour moi et pour toi. Amen. Amen. Je vous laisse méditer et mettre à chaque fois la chose qui va, que vous allez vous souvenir, si vous lisez la Bible, si vous écoutez le message. Il ne faut pas tout de suite partir, il faut se poser la question, que ferais-je comme affaire. Amen. Seigneur Jésus, je sais que tu as un plan merveilleux pour ton peuple. Je sais que tu nous as laissé des écritures pour nous améliorer, pour nous ajuster à certains manquements que nous avons attaqués. Seigneur, tu as voulu que je passe, je sois ici, pour être un outil, pour être un outil. Seigneur, il y a des paroles qui viennent de sortir dans ma bouche, mais je sais que je suis une personne convaincante. Toi, derrière ta parole, c'est toi qui convainc. Depuis l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance, c'est ta parole qui peut changer de ma personne. Seigneur Jésus, je prie que ce message puisse être bien compris. Même ce que je n'ai pas pu dire, je prie que le Saint-Esprit puisse accompagner le message jusqu'à aider les gens à t'approcher, à être plus près de toi, à t'écouter, à changer de toi. Merci Seigneur.